Un beau bonjour à tout le monde. La fête des tabernacles est vraiment très, très bien démarrée avec déjà plein de bénédictions et c'est pas fini. L'histoire est à peine commencée. D'abord, il ne faut pas que j'oublie, vous avez chaleureuses salutations de la part des membres de l'Église au Québec. Ils m'ont bien fait promettre de vous saluer chaleureusement. Je sais qu'ils aimeraient vous connaître. Éventuellement, il y en aura peut-être d'autres qui pourront venir à la fête pour rencontrer personnellement aussi. Moi, j'avais hâte de vous rencontrer parce que, bien sûr, on prépare les émissions de télévision et aussi les sermons que vous recevez ici en français. Je connais quelques-uns d'entre vous personnellement à cause du nombre d'années dans l'Église, mais la plupart, je ne les connaissais pas. Alors maintenant, on va retourner au Québec pour continuer l'œuvre, mais j'aurai des visages à me rappeler lorsque je vais préparer ces choses-là pour vous. Alors, la communication va être plus directe et plus réelle, si vous voulez. Merci pour les 3P. J'ai pris une chance de laisser M. Ellis me présenter à sa façon. Mais c'est bien. C'est vrai ici que je ne suis pas dans la boîte. Au Canada, on me met en boîte, mais ici, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai plus de liberté de manœuvre. D'ailleurs, on m'a dit de faire attention lorsque j'enregistre les émissions de télévision, de ne pas faire de trop grands gestes pour ne pas sortir de l'écran. Alors, je suis obligé de... Oui, on doit s'adapter à différentes choses. Mais vous voyez mes jambes maintenant, ce que vous ne voyez pas avant. Bien, pas pour le moment, là, mais lorsqu'on se rend compte. Mais ça a été frappant pour certains d'entre vous, parce que quelqu'un m'a dit hier soir au souper que j'étais beaucoup plus petit qu'il pensait. Ça m'a donné un coup, honnêtement. Mais bon, j'ai eu la nuit pour me remettre, alors... Je pardonne à M. Cajot. Alors, les jambes sont là, ils sont étendus au maximum, mais c'est ce que ça donne. Alors écoutez, aujourd'hui, dans le sermon, je vais vous parler d'un thème qui est cher à tous les êtres humains. C'est un grand thème, mais je veux le traiter à la façon de Dieu. Puis de toute façon, c'est la seule manière de le traiter pour vraiment le bien comprendre. Le bonheur. Le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Cherche à être heureux. Mais vous savez, pour trouver le bonheur, il faut savoir ce que c'est. C'est normal. Et il faut savoir comment le chercher pour être capable de l'atteindre. Et nous savons, parce que Dieu nous a appelés, que la seule source pour connaître le bonheur véritable en tant qu'être humain, c'est ce que le Créateur nous a donné, le guide d'emploi, le mode d'emploi pour avoir une vie heureuse. Une vie de bonheur. Et c'est exactement ce que la Bible dit dans Proverbes 3, verset 13, lorsqu'il est écrit « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Mais bien sûr, pas n'importe quelle sorte d'intelligence. L'intelligence des choses de Dieu qui sont données aux petits que nous sommes. Ça nous est révélé, ça nous est donné. C'est un immense cadeau. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour dire bonheur dans la Bible. On peut dire, par exemple, heureux celui qui, ça c'est le chemin du bonheur, est là, ou béni celui qui fait telle chose, béni par Dieu. C'est bonheur aussi. Parfois, c'est le mot joie. Et on voit que ça décrit le bonheur lorsqu'on regarde l'ensemble du contexte. Récemment, au Canada, j'ai regardé une émission de télévision sur la chaîne Radio-Canada qui traitait du bonheur. Et j'ai retenu certaines choses qui m'ont grandement impressionné et qui vont nous mettre sur la route du sermon d'aujourd'hui. Il y avait là la présidente de l'association des psychologues du Québec, Mme Rosemarie Charest. C'est une psychologue de 30 années d'expérience. Et elle a dit ceci. Elle a dit, dans ma carrière de 30 années, à recevoir les gens pour les aider à mieux vivre, la phrase que j'ai le plus souvent entendue dans ma carrière, c'est celle-ci. Des gens qui me disaient, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, et pourtant, je ne le suis pas. C'est ce que cette psychologue-là a entendu le plus souvent comme phrase dans son bureau de consultation. Et ça, vous savez à quoi ça équivaut? En d'autres termes, ça veut dire que c'est un vide existentiel lorsqu'on ne connaît pas le vrai Dieu, ni le but de l'existence humaine. Si on ne connaît pas le grand but de l'existence humaine, il y a un vide. Et ce vide-là ne peut pas être rempli autrement que par la vérité précieuse de Dieu. Alors, c'est pourquoi tant de gens disent « J'ai tout ce qu'il faut, selon ma perception, pour être heureux, mais je n'y arrive pas. » Parce que ce vide-là n'est pas comblé. Tous les êtres humains auront la réponse après le retour du Christ. Et nous pourrons donner cette réponse-là aussi. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, grâce à vous, grâce à moi, si nous persévérons jusque-là, que les gens connaîtront le vrai Dieu et connaîtront la voie qui mène, la seule voie qui mène au bonheur véritable et qui peut remplir le vide de l'existence humaine. Ce que nous voyons aujourd'hui dans la société autour de nous, une société qui n'est pas heureuse, c'est ce que décrit Osée 4 et le verset 6. Dans Osée 4 et le verset 6, Dieu dit ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. » Alors, appliquons ça à ce que je vous dis maintenant. Mon peuple, ou l'humanité, si vous voulez, séparée de Dieu, elle est détruite, c'est-à-dire qu'elle souffre, elle est malheureuse, parce qu'elle n'a pas la connaissance du vrai Dieu encore. Voyez-vous? Dieu décrit dans cette phrase-là la société autour de nous. Écoutez, si les gens cherchent tellement le bonheur de la société autour de nous, c'est simplement parce qu'ils ne l'ont pas. Sans ça, ils ne le chercheraient plus. Et ils le cherchent dans toutes sortes de choses qui ne leur procurent pas, mais ils cherchent. Parce qu'ils ont besoin. C'est un besoin qui est inné en nous. Et je pense que Dieu a mis ça dans les êtres humains justement pour nous préparer à trouver la vraie réponse et à s'approcher de lui le jour où il appelle chacun. Comme Dieu a mis dans les êtres humains le désir de l'éternité. Il est là, le désir d'éternité. On a tellement cherché la fontaine de jouvence. Alors, le désir d'éternité a été mis par Dieu. Et tout ça prépare au monde qui vient et au fait que les gens sauront à ce moment-là. Alors, les gens cherchent beaucoup le bonheur, mais sans le trouver pour le moment. Dans nos sociétés, on en parle de plus en plus. On écrit beaucoup d'articles, des revues sont publiées, des émissions de télévision sont faites à ce sujet-là. Il y a des conférences qui essaient d'expliquer comment atteindre ce que les gens appellent le mieux-être, un autre terme selon eux pour décrire le bonheur. Mais dans la société, on dit aux gens, et ça c'est fort, on dit aux gens que chacun doit trouver sa propre recette de bonheur. Ça c'est pas possible. C'est comme si vous disiez, il y a 1000 recettes pour faire du vin. Mais il n'y a pas 1000 recettes, je pense, pour, je ne suis pas un connaisseur, mais il n'y a pas 1000 recettes. Il y a certaines procédures à suivre et à respecter. Chacun ne peut pas faire comme lui pense faire du vin. Le résultat ne sera pas du vin. Alors, voyez-vous, on laisse croire aux gens que chacun doit trouver sa façon d'être heureux. Ça ne peut pas marcher. Ça rejoint ce qu'on lit à la fin du livre des juges. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Mais tout le monde était malheureux. Personne n'était vraiment heureux. Alors, on dit aux gens que chacun doit trouver sa propre façon d'être heureux. C'est vraiment le principe de dire que telle voie paraît droite à un homme, mais que son issue, c'est la voie de la mort ou la voie de la souffrance, si vous voulez. Et on va plus loin que ça parce qu'on fait croire aux gens, dans toute la littérature qui est publiée ou dans les émissions concernant le bonheur, on fait croire aux gens que cette recette du bonheur que chacun va développer selon ce qu'il pense, que cette recette-là va changer avec le temps. Et on leur dit, parce que les circonstances de vos vies changent, donc votre recette doit changer. Comme si le bonheur dépendait des circonstances. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le bonheur ne dépend pas des circonstances. Dieu, au contraire, nous montre clairement que notre bonheur dépend de nos attitudes et de nos choix. Ça fait drôle de dire que le bonheur, c'est une question de choix. Mais vous allez voir au cours du sermon que c'est exactement comme ça. Et c'est pour ça que vous trouvez dans l'Église des gens qui parfois sont très malades et qui sont des gens heureux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui ils sont, ils connaissent l'avenir que Dieu leur réserve, ils connaissent leur rôle à jouer maintenant et dans le monde à venir, en sachant que ce que nous avons à vivre maintenant est simplement temporaire. Et que tout ça, Dieu s'en sert pour nous préparer à servir les autres dans le monde de demain. Alors, vous avez des gens dans l'Église qui sont très malades ou qui passent par des circonstances difficiles, mais qui appliquent la règle de Paul, qui a passé toutes les sortes d'expériences difficiles qu'un être humain peut connaître, et qui disait, soyez toujours joyeux, soyez toujours heureux, soyez toujours positif. On peut donc avoir bonheur, même si on est dans des situations pénibles. Je me rappelle, il y a un monsieur qui est revenu à l'Église il y a quelques années, après que l'Église universelle de Dieu eut implosé, et il avait perdu sa route, comme un certain nombre d'entre nous. Et après quelques années, on s'est retrouvés, et là, il a réalisé que dans l'Église du Dieu vivant se trouvaient encore les restes de l'Église qui était sous M. Armstrong. Parce que les évangélistes qui avaient été ordonnés par M. Armstrong étaient tous ensemble dans l'Église du Dieu vivant pour continuer le même travail. Alors, il est revenu à l'Église, mais sans revenir physiquement parce qu'il était trop malade. Il n'a jamais pu, par la suite, assister à une assemblée de sabbat. Mais il me demandait d'aller le voir. C'était une certaine distance et j'y allais. Et à un moment donné, sa situation s'est détériorée. Il m'a demandé de faire sa funéraille. Ça fait drôle quand vous avez un ami que vous avez baptisé, que vous avez connu depuis longtemps, qui vous demande de faire sa funéraille. Et je lui ai dit, je n'ai pas le goût de le faire, mais je veux vous rendre honneur en le faisant, monsieur. Et je l'ai fait quand la chose s'est produite. Et j'étais là au moment où il est décédé. Il était en train de s'en aller, je lui ai parlé à l'oreille, j'ai tenu la main et je lui ai dit, maintenant, la course est finie, mais l'instant d'après, vous allez voir le Christ. Moi, il faut que je continue le travail. Et cet homme-là s'est endormi avec une paix d'esprit. Vous savez, la paix d'esprit du Christ qui dépasse l'entendement humain, comme la Bible dit. C'est pas normal humainement. Mais c'est la paix du Christ qui permet de vivre une telle situation. Quand on sait qui on est, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui nous attend. Et pourtant, cet homme-là avait une épouse, avait des adolescents, mais là, il savait que Dieu avait pris la décision de le laisser aller. Il acceptait la décision de Dieu et il s'en remettait totalement à lui. Il savait que Dieu allait prendre soin des siens, parce que Dieu est un Dieu de promesses infaillibles aussi. Alors, voyez-vous, le bonheur ne dépend pas des circonstances dans lesquelles on se trouve. On veut laisser croire ça aux gens, mais ce n'est pas le cas. Ça dépend de notre attitude d'esprit, de nos choix. Mais en général, les êtres humains pensent que le bonheur, c'est d'être en santé, que le bonheur, c'est l'instant présent, que le bonheur, c'est d'avoir un bon emploi, un bon salaire, de posséder des choses, ainsi de suite. Remarquez que ce ne sont pas des choses mauvaises lorsqu'elles ont leur place dans notre vie. Mais ça ne doit pas être la priorité, simplement. Mais c'est des choses bonnes en soi, que Dieu est prêt à nous donner et qu'il nous donne, effectivement, dans certaines circonstances. Alors, je reviens à cette émission de télévision où on parlait du bonheur et où on interviewait plusieurs personnes impliquées dans le domaine. Et j'ai été frappé d'entendre deux ou trois sociologues qu'on interrogeait à ce moment-là. C'était dans le cadre d'une recherche spirituelle aussi. Et ces hommes-là, ces sociologues-là, ont expliqué que la recherche actuelle du bonheur, recherche tellement intensive dans la société moderne, cette recherche actuelle du bonheur dans les choses physiques, dans les circonstances, vient du fait que les gens ont maintenant laissé tomber l'idée chrétienne d'un salut. Et c'est logique, parce que si les gens ne croient pas qu'il y a autre chose de plus après, il faut qu'ils aient tout de suite. Et comme ils ne peuvent pas avoir tout de suite, ou que ce qu'ils cherchent à avoir tout de suite ne répond pas, les gens ne sont pas heureux, n'ont pas la réponse. Selon ces sociologues-là, l'espoir du salut éternel, qui était davantage répandu dans nos sociétés il y a quelques années, a graduellement été remplacé par un bonheur terrestre, physique, immédiat, et par un bonheur de dimension individuelle. On a rétréci la notion de bonheur à petit moi, à soi-même. Et ça va plus loin parce que pour les gens, l'ordre de la société ne vient plus désormais d'en haut, de valeur, par exemple, judéo-chrétienne. Elle ne vient plus d'en haut, cette valeur-là. Mais elle doit venir des hommes. Mais oui, s'il n'y a pas de Dieu, il faut s'organiser tout seul. Il faut se bâtir une société, il faut se donner des soi-disant valeurs. Cet ordre de société doit venir des hommes, de leur volonté et de leur désir de vivre mieux ou de posséder davantage. C'est intéressant, quand vous regardez la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui a été mise sur papier en 1776, il y a une phrase qui m'a frappé par rapport au bonheur, parce que c'est inclus dans la déclaration d'indépendance américaine. Ça dit ceci: les Américains ont un droit à la recherche du bonheur. Rappelez-vous que les États-Unis ont été fondés par des gens qui fuyaient la persécution religieuse et qui croyaient en Dieu et qui avaient à ce moment-là des valeurs beaucoup plus sûres que celles qu'on voit dans la société autour. Alors, ils ont mis ça dans leur déclaration d'indépendance. Et ça signifiait la liberté de croire et de vivre selon nos croyances. D'où la phrase qu'on voit même sur la monnaie américaine encore aujourd'hui: « In God we trust ». Nous mettons notre confiance en Dieu. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais à l'époque, ça avait toute sa signification dans ce sens-là. Aujourd'hui, 200 ans plus tard environ, les gens ont été amenés à croire que le bonheur se trouve dans la consommation, avoir le plus de choses possible. Et je reviens encore à mon émission de télévision. Il y a un sociologue, M. Gilles Gagné, de l'Université Laval de Québec, qui a dit que cette quête du bonheur, elle est devenue individualiste et qu'elle se fait au détriment du collectif. Donc, c'est le chacun pour soi. Trouvez votre recette du bonheur, occupez-vous pas des autres, prenez ce qui fait votre affaire et laissez aller le reste. C'est un peu la philosophie de la société actuelle. Alors, ce qui arrive, c'est que malheureusement, les gens se replient sur eux-mêmes. Les gens se replient sur eux-mêmes et n'ont plus le sentiment que la vie a un sens, parce qu'il n'y a pas un but plus grand en avant. Sinon que moi, maintenant, comment je peux satisfaire tous mes désirs? Voyez-vous? Et les gens n'ont plus, et ça c'est important, je vais revenir là-dessus, et n'ont plus le sentiment non plus qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux, de plus grand que petit moi. Voyez-vous? Vous et moi, là, on a une bénédiction extraordinaire. On est à la grande fête de Dieu. Et c'est rassurant. Et c'est une fête de bonheur.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fête d'individus. On en profite en tant qu'individu et on est fortifié, encouragé. Mais c'est une fête de famille. Comprenez-vous? Et c'est pour ça qu'on a tellement de bonheur à se trouver ou à se retrouver, à échanger, à rêver des mêmes choses. Pas pour nous, on en profite déjà. Mais pour les autres, d'ici quelques années, quand le Christ sera revenu, eux aussi sauront qu'ils ont, dans le fond, un grand but collectif de faire partie de la famille royale, de faire partie de la famille de Dieu. Le grand but que les gens dans l'humanité actuellement ne connaissent pas. Le vrai but de la vie, et M. Ellis en a parlé dans son premier message, la famille de Dieu, elle est ici. Alors que dans la société autour de nous, ce qu'on voit au niveau de la famille, c'est des familles brisées, des familles divisées, des familles reconstituées et reconstituées, des enfants abandonnés et ainsi de suite. Et ce qu'on voit autour de nous, ce sont des partis politiques qui n'attirent plus la confiance non plus. Les gens deviennent même cyniques face à toute la corruption et au fait qu'on ne peut plus se fier à pratiquement personne, que les promesses ne sont pas tenues. Et quand vous regardez au niveau de la religion, les gens sont déçus et confus aussi. Et ça va loin le petit moi parce que on voit de plus en plus les gens développer leur propre religion, leur propre façon de faire, même à l'intérieur de leur religion. Plusieurs ne croient pas à ce que leur religion enseigne, ils font à l'intérieur de cette religion-là ce qu'eux veulent faire. Malheureusement, ça arrive parfois dans l'Église aussi, que certaines personnes viennent à l'Église, semblent vraiment être convertis, semblent être là, mais qu'ils persistent à faire les choses à leur façon et ne pas vouloir changer, donc qui essaient de bâtir leur propre petite religion à l'intérieur de la maison de Dieu. Et un jour ou l'autre, ces gens-là devront se rendre compte qu'ils doivent aller beaucoup plus loin, que la religion que je dois pratiquer, c'est la religion de Dieu et non pas la mienne. Je viens à l'Église pour apprendre tout, 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 tout. Et ce monsieur Gagné-là, ce sociologue-là, disait aussi à la télévision, il n'y a plus de fondement solide qui encadre les individus, voyez-vous, ni religion, ni parti politique, ni cadre familial, parce que ça se désintègre. Il n'y a plus de fondement solide qui encadre les individus. Les gens cherchent le bonheur dans ce qui est achetable. Dans ce qui est achetable, dans des compensations. On essaie de compenser pour le vide qu'on ressent en dedans. Dans des substituts. Et les gens sont toujours déçus. Dans cette situation, le bonheur ne veut rien dire. Le bonheur ne veut absolument rien dire. Ça devient une sorte de compensation marchande. Et les gens sont simplement repliés de plus en plus sur eux-mêmes, sur leur petite vie, sur leur quotidien. Vous n'avez plus de groupe réel ou de lien réel. Vous avez des individus ensemble ou en parallèle, si vous voulez. Ce qui est contraire à la mentalité de Dieu, à ce qui s'en vient. Et les gens se font, parce qu'ils cherchent à remplir leur vie, ce que j'appellerais une petite liturgie de bonheur. En se faisant un scénario de vie, aller au cinéma, pouvoir prendre un peu de vacances de telle façon, profiter de la vie, ainsi de suite, avoir des amis, partager des repas avec eux. Et on emplit la vie avec ça, mais ça ne donne pas la réponse au but de l'existence humaine. Ça n'apporte pas vraiment un sens à la vie. Ces choses-là peuvent être agréables et elles ne sont pas mauvaises en soi, mais encore là, à leur place. Dieu nous a donné, nous, de voir quelque chose d'énorme, de beaucoup plus grand que notre petite personne. Et on apprend à développer, de s'approcher de lui et de s'approcher de nos frères et sœurs à travers le monde. Pour nous, c'est le contraire. Dieu nous montre le but de la vie. Et quand M. Ellis a parlé de ça, au début de la fête, je me disais, waouh, ça va exactement dans le sens de mon message. On ne s'était pas parlé. Mais c'est le même grand chef d'orchestre, hein? qui inspire les sermons et les messages pour que ça aille ensemble. Et le but de la vie pour nous maintenant, c'est de devenir comme le plus vieux de la famille, comme notre frère aîné, de revêtir le Christ de plus en plus, de naître bientôt dans la famille de Dieu en tant qu'être spirituel glorieux, en ayant un avenir fantastique, pas d'abord pour nous, mais pour les autres. Comme on a vu dans un autre message aussi, hier, à l'effet qu'on pourra guérir les gens, qu'on pourra les encourager, leur apporter réconfort, leur montrer le vrai chemin du bonheur, on sera là pour eux. Comme on est là actuellement, en tant que toute petite église, pour annoncer ce qui vient. Et parmi ceux qui entendent, Dieu appelle quelques-uns pour finaliser sa famille. Allez à Romains 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, et on va lire verset 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, et il vous a connus d'avance, votre nom a été prononcé dans la salle du trône, au ciel, parce que Dieu a décidé de vous attirer au Christ. Il vous a donné de commencer à comprendre. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Les autres frères et sœurs, c'est nous. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On est justifié par le sacrifice de Christ lorsqu'on passe par les eaux du baptême. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors pour lui, c'est intéressant parce que Dieu est hors du temps. Hein? Et il peut parler comme ça. Il peut dire qu'il nous a déjà glorifiés parce que pour lui, c'est comme si c'était fait. Parce que c'est le but qu'il est en train d'accomplir et que personne ne va l'empêcher d'accomplir. Voyez-vous? Alors, il peut dire, je les ai glorifiés. Attendez de voir, ça s'en vient. Dans le fond, c'est ce que Dieu dit. Alors, le projet de Dieu, c'est fascinant. Le projet de Dieu, c'est un projet de famille. Bâtir une famille, avoir des enfants. Et établir un système et une royauté et un système de vie qui va durer éternellement à l'intérieur du bonheur parce que les lois de Dieu seront pratiquées. Alors Dieu nous a créés, on peut le mettre en ces termes, Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Maintenant aussi, malgré les circonstances, parce que comme je vous dis, j'ai vécu plusieurs expériences avec des gens qui avaient humainement toutes les raisons de ne pas être heureux, mais qui étaient heureux. Des gens de bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qui il était, qui est Dieu, et ce qui s'en vient, leur rôle maintenant et leur rôle futur. Alors, Dieu veut qu'on soit heureux maintenant et à jamais dans le monde de demain. D'ailleurs, c'est le message fondamental de toute la Bible. Et c'est pour ça que Paul a dit, comme j'ai mentionné tantôt, soyez toujours joyeux, soyez heureux, appréciez ce que Dieu vous a donné. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles Dieu vous donne de vous trouver, remerciez-le et demandez-lui de faire sa volonté à travers ça pour vous préparer à servir les autres éternellement. C'est ça le sens. Et en même temps, c'est le sens de la fête des tabernacles. J'aime l'idée que M. Appartient nous expliquait parfois. M. Appartient nous disait, vous êtes à la fête, appréciez, goûtez-y, goûtez les bonnes choses, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour tous ceux à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu encore. Vous êtes en préparation pour aller aider ces gens-là. Y compris les gens de vos familles qui ne sont pas ici et qui sont peut-être hostiles à vous, qui refusent votre religion ou votre façon de faire. C'est pour eux que vous êtes ici aussi. Et c'est pour eux que vous et moi, on doit persévérer jusqu'à la fin. Le bonheur, dans ce sens-là, ça se développe graduellement. À mesure qu'on se repent, qu'on devient de plus en plus comme notre grand frère, avec l'aide de Dieu, seul on ne peut pas. C'est par la puissance de Dieu absolument. Seul, je suis absolument faible, mais par la puissance de Dieu, je peux absolument toutes choses. Et comme le Dieu que je sers est le Dieu de l'impossible, quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, ou les difficultés que je rencontre, ou les épreuves, Dieu a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais, et je peux compter sur lui. Mais moi, je ne dois pas l'abandonner. Je ne dois pas négliger un si grand salut. Je dois faire ce que j'ai à faire, ce que Dieu me demande de faire. Alors, le bonheur, dans ce sens-là, ça se développe graduellement. Et il y aura d'autres étapes de bonheur encore plus grandes que ceux qui nous est donné de vivre maintenant. Vous savez, dans ce sens-là, on peut dire que le bonheur, c'est pas une loterie instantanée. Vous savez, c'est pas dire là, je suis malheureux, et que ça va mal. Je suis malheureux, il n'y a rien qui marche, ça va pas. Je vais aller m'acheter un billet de bonheur. Et là, j'achète un billet de bonheur et je vais gratter pour voir si je vais trouver le bonheur. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Les gens achètent par chez nous, moi je ne le dis pas bien sûr, mais les gens achètent par chez nous des petits billets. On appelle ça des gratteux, nous autres. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Alors là, les gens grattent pour voir s'il y a trois grappes de raisin ou trois, je ne sais pas quoi. Là. Et puis là, ils peuvent gagner des prix. Alors le bonheur, c'est pas comme ça. Vous n'achetez pas un gratteux et gratter. Waouh! Je suis heureux. J'ai trouvé le bonheur. Voilà, c'est vrai. Je suis rendu, je suis arrivé. C'est pas une loterie instantanée. Absolument pas. Le bonheur ne dépend pas des choses extérieures et il ne dépend pas des circonstances. Il dépend de nos choix et de nos attitudes. Le bonheur, c'est pas d'avoir une voiture ou une bicyclette, ou une voiture plus grande, ou non. Le bonheur, c'est pas la santé. C'est des choses bonnes, mais à leur place dans nos priorités. Et si on ne les a pas comme on souhaiterait l'avoir, ça change rien au grand but de la vie. Absolument pas. Moi, c'est là que je m'en vais. Parce que ma vie temporaire, elle est très courte. Elle est éphémère. Comme ce que durent les roses, comme disait Ronsard, l'espace d'un matin. Et plus on avance en âge, plus on se rend compte que Ronsard avait raison. C'est que la vie, elle est courte. Alors les roses commencent à se faner. Le bonheur, c'est pas non plus d'être jeune. Malgré que quand on est jeune, on est en feu. On est rempli d'énergie. Et on sait de toute façon qu'on vieillira jamais. Quand on a 15 ans, 18 ans, 20 ans, on regarde les vieux de 40 ans. Puis on n'a pas l'impression que nous, on aura 40 ans à un moment donné. Mais à un moment donné, on a cet âge-là, ou on a 60, ou on a plus que ça. Et on dit, finalement, 70 ans, c'est pas si vieux. Mais quand vous regardez en arrière, le film est déroulé assez vite. Hein? Le film s'est passé plutôt rapidement. Alors, le bonheur, c'est pas la jeunesse ou l'énergie. Tant mieux si on l'a, et le temps que ça dure, c'est bien. Comme la Bible dit, il faut savoir bien l'utiliser, par contre, lorsqu'on Dieu nous donne ces choses-là. C'est pas d'avoir un poste élevé non plus. Si on peut l'avoir, tant mieux. Et si on peut bien l'utiliser, Dieu peut se servir de ça pour nous aider à développer des choses qui vont servir aussi dans le monde à venir. Bien que ce soit des choses bonnes en soi, ce n'est pas ce qui apporte le vrai bonheur. L'erreur la plus courante que les gens font, c'est de s'attendre. Et ça, c'est important. Prenez le temps d'y réfléchir. L'erreur la plus courante que les gens font, c'est de s'attendre à ce que les choses les rendent heureux. Ou de s'attendre à ce que les gens les rendent heureux. J'ai bien mesuré mes gestes, là. À ce que les choses me rendent heureux. À ce que les gens me rendent heureux. Là, je suis encore avec petit moi, là. Ça, c'est la loi de prendre. OK? Rendez-moi heureux. Objet. Rendez-moi heureux, vous qui êtes autour de moi. Non, c'est pas ça. Aussi longtemps qu'une personne croit que le bonheur dépend de ce qui est en dehors d'elle, des circonstances, des choses, des gens, cette personne-là ne peut pas atteindre le vrai bonheur. Elle ne peut pas atteindre le vrai bonheur. Elle est sur une mauvaise piste. Aussi intense que soient ses efforts. Pourquoi? Parce que le bonheur est quelque chose d'intérieur, d'intime. Ça se passe en dedans. Et ça se passe en dedans, entre vous et votre Créateur, qui vous a créé avec un grand but. Et le bonheur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion. Bien que lorsqu'on a des joies et qu'il y a des choses qui nous plaisent, qu'il y a des émotions qui viennent avec, mais le bonheur, essentiellement, n'est pas une émotion. Et ce n'est pas une exubérance passagère non plus. Absolument pas. Le bonheur, c'est une joie profonde par l'Esprit de Dieu en nous. C'est une joie paisible de savoir qu'on est sous l'aile du grand aigle qui va nous amener à terme, selon ses promesses, si je suis fidèle. Je pourrais résumer en d'autres termes. Le bonheur, c'est un état d'âme. C'est un état d'âme, c'est une attitude, c'est intérieur. Et ça relève du domaine spirituel. Vous savez, M. Armstrong a expliqué souvent que dans l'homme, il y a l'esprit humain. C'est vrai. On peut raisonner avec l'esprit humain, essayer de comprendre les choses. Mais tant qu'on n'a pas la dimension complète en ayant l'Esprit de Dieu avec nous, nous ne sommes pas complets. Mais par l'Esprit de Dieu, par le fruit de l'Esprit, on développe la vraie vision de Dieu. Et cette paix-là intérieure, qui dépasse toute compréhension humaine, elle nous est accordée. Donc, le bonheur, ce n'est pas une excitation émotive ou des plaisirs. Ce n'est pas le cas du tout. C'est une paix intérieure, une sérénité, une satisfaction, on peut dire ça comme ça, une confiance. Et une fois que vous avez développé de connaître le vrai Dieu de façon pratique, parce que vous cherchez à vous approcher de lui, par la prière, par l'étude, par le jeûne, en lui demandant son intervention, un, pour vous donner de faire sa volonté, et deux, pour vous aider dans ce que vous avez besoin, là, vous commencez à le voir intervenir. Et Dieu devient réel. Et plus vous le voyez intervenir dans votre vie, et il le fait même dans les petites choses, plus ça vous rassure, plus votre confiance est développée. Et vous avez ce sentiment de paix. Et on devra l'avoir, même selon la sermonnette qu'on a entendue tantôt, que j'ai trouvée excellente, dans les années qui sont devant nous. Quand les circonstances seront plus ardues, quand les circonstances seront plus difficiles, nous devrons déjà avoir développé cette confiance envers le Tout-Puissant, le Grand Aigle, qui va nous mener à travers ces circonstances-là et qui va nous donner à chaque circonstance de savoir quoi faire, comment réagir. Le même Dieu qui a fait que, durant cette fête ici, par exemple, alors qu'on attendait beaucoup de pluie, Dieu nous donne un temps radieux parce que c'est sa fête. Et c'est pas la première fois que ça se produit. Il faut le voir intervenir même dans les petites choses. Vous savez, la publicité amène les gens sur une fausse piste. La publicité nous promet d'être heureux si nous achetons certains produits. Je vous apprends rien. Quand on regarde la télévision, nous on regarde à peu près juste les bulletins de nouvelles, mais dans les bulletins de nouvelles, il y a toujours de la publicité. Et dans presque toute la publicité, ce qui est en arrière de ça, pour être heureux, acheter tel produit, porter tel genre de vêtements avec telle marque et ainsi de suite. Et là, c'est le bonheur parfait. Là, vous avez gratté, là. Si vous avez acheté ce... Ben oui. Alors, on vous vend cette idée-là. C'est présent partout autour de nous. Si on achète certains produits, si on fait certains voyages, si on adopte certains styles de vie, là, on sera heureux. Et la publicité nous garantit le bonheur, donc, dans la multiplication des plaisirs. Et là, on nous flatte un petit peu. On dit, ben, vous le méritez bien. Hein? Vous le méritez bien. Payez-vous telle chose, même si vous n'avez pas le moyen. Clic, clic, la carte de crédit. Ça, vous n'avez pas besoin de la gratter, mais c'est vous qui vous grattez après pour la payer. Alors, on dit, vous le valez bien, vous le méritez, allez-y. Et en plus de ça, on a l'exemple de nos gouvernements qui nous aident, qui nous donnent le chemin à suivre de cette façon-là, parce qu'ils s'endettent plus qu'ils peuvent payer. Donc, c'est l'ère du temps, comme on dit. Alors, la pub nous garantit donc que le bonheur est dans la multiplication des plaisirs. Mais l'exemple que j'aime à donner par rapport à ça, c'est de chercher, si on fait ça, le bonheur au mauvais endroit. C'est comme si vous avez le goût, par exemple, de manger des fraises fraîches. C'est bon, hein, des fraises qu'on va cueillir dans le champ. fait ça chez nous sur la ferme quand on va dans le bois et qu'il y a des, la saison des fraises. On peut goûter des fraises, c'est tellement bon, c'est savoureux. Mais si vous voulez manger des bonnes fraises fraîches, il ne faut pas aller essayer d'en cueillir sur le stationnement d'un centre d'achat parce que ça ne pousse pas sur l'asphalte ou sur le macadam. Vous cherchez, dans ce sens-là, le bonheur au mauvais endroit. Vous pouvez chercher longtemps, mais il n'y aura pas de fraises. Il y a de, mettons ça de même, l'analogie, il n'y aura pas de bonheur que vous allez trouver à ce moment-là. Allez à Jean, chapitre 15, et on va lire le verset 9 à 11. Dieu nous a appelés à être heureux, mais il veut qu'on cherche le bonheur au bon endroit. C'est pour ça qu'il nous donne ses enseignements, dans la pratique de ses voies. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, première chose. Et deuxième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Remarquez bien que ça, c'est le contraire de la loi de prendre qu'on a regardé tantôt. C'est la loi de donner. Donner à Dieu affection, reconnaissance, obéissance, et donner aux autres affection, service, amour, encouragement. C'est la loi de donner. Et là, pour continuer mon analogie, là, il y a des bonnes fraises. Dans le sens que là, ça donne le résultat. Et on est sur le chemin de la vie éternelle dans la famille de Dieu. Alors, Jean 15, versets 9 à 11. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » C'est le Christ qui parle. « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Il veut que nous soyons heureux. Et que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite. Et ça, c'est le chemin vers le bonheur véritable. Tout simplement. Le vrai bonheur, il est basé sur notre fidèle détermination à faire toute la volonté de Dieu. Je vous ai dit au début, le bonheur, c'est un choix. C'est une question d'attitude. C'est pour ça que Dieu dit dans Deutéronome, hein, « J'ai mis devant toi la vie, la mort. Choisis la vie pour que tu sois heureux, toi et tes enfants. » C'était là depuis le tout début. Ce que je vous donne, c'est rien de nouveau. Mais c'est la base et on a besoin de comprendre ce que c'est pour apprécier ce que Dieu nous donne et développer d'être heureux, d'être joyeux. Vous savez une chose? Vous pourriez écrire une petite phrase sur un bout de papier et la coller dans le miroir de votre salle de bain. Et chaque matin, lorsque vous vous présentez devant vous-même, dans votre salle de bain, vous pourriez lire cette petite phrase-là qui devrait être l'inscription suivante. « Je regarde le visage de la personne qui est responsable de mon bonheur. » Oui, c'est exactement ça. « Je regarde le visage de la personne qui est responsable de mon bonheur, parce que je suis responsable de mon bonheur. Si je décide et que je suis fidèle dans la recherche des voies qui mènent au bonheur, tout simplement. Ne connaissant pas encore le vrai Dieu, les humains cherchent le bonheur dans ce qui ne peut pas le produire. Dans l'argent, par exemple. L'argent n'est pas une chose mauvaise. Et si quelqu'un gagne des bons revenus, c'est formidable. Mais il faut que ça aille... Ça place dans la liste de priorités de Dieu. Absolument. Écoutez, Abraham était un homme, je devrais dire peut-être multimilliardaire à l'époque. C'était un homme très, très riche. Job aussi était un homme excessivement riche. Et il est même devenu plus riche après. Et Dieu n'a jamais, jamais reproché à ces hommes-là d'être riches. Mais ils utilisaient bien ce qu'ils avaient. C'est clair, parce qu'ils leur auraient reproché. Ils travaillaient sur d'autres points qu'eux avaient à changer, tout simplement. Mais pour eux, ce n'était pas un problème. Alors, l'argent en soi n'est pas un problème. C'est l'utilisation qu'on en fait et c'est notre vision des choses. Si l'argent, pour moi, est le but de la vie, bien, le but de la vie n'est pas Dieu, ni ma transformation, ni le souci des autres. Je suis sur une voie d'évitement par rapport au bonheur, pour ainsi dire. Il y a M. Daniel Cohen, que vous connaissez en Europe, probablement, un économiste français. J'ai pris sa déclaration sur TV5, à un moment donné. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et ça décrit l'état de la société, et ça décrit que les gens ne sont pas heureux. Ils n'ont pas trouvé encore le chemin du véritable bonheur. M. Cohen disait ceci, « Notre niveau de vie a doublé en 30 ans. Mais en même temps, notre consommation d'antidépresseurs a triplé. Ça parle, ça dit beaucoup. Donc, on est devenu dans une société beaucoup plus abondante, où on peut se permettre bien des choses dès qu'on a un peu d'argent, qu'on a accès à ces choses-là. Une société de grande abondance. Mais en même temps, les gens souffrent de beaucoup de dépression. Les gens ne sont pas heureux. Ce n'est pas l'abondance des choses qui apporte le bonheur. Au contraire. Au contraire. J'ai trouvé cette déclaration-là très intéressante. Et vous savez, ça faisait simplement répéter une déclaration que Dieu a déjà faite dans la Bible. Vous irez voir dans Ésaïe 59, verset 10. Pas besoin d'y aller maintenant, notez le passage. Ésaïe 59 et le verset 10. Dieu dit la même chose de façon frappante. Il dit, en parlant des êtres humains, et c'est d'autant plus vrai à la fin du monde actuel, alors qu'on a toute cette abondance-là, Dieu dit ceci, « Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. » Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Parce que toute cette abondance-là n'apporte pas le bonheur, au contraire. Si c'est mal utilisé, ça apporte même plus de malheur. D'autres cherchent le bonheur en développant ce qu'on appelle dans la société moderne la valorisation personnelle. Valorisation personnelle. C'est encore le petit mot, là. Valorisation personnelle. On va être heureux si on est quelqu'un. Il faut devenir quelqu'un. Ben oui, il y a une différence entre chercher ça pour ça ou développer ses talents pour servir. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors, les gens développent la valorisation personnelle, l'estime de soi. On entend beaucoup parler de ça, hein? Il faut développer l'estime de soi. Je suis important. Je crois en moi. J'ai des énergies qui vont me permettre de tout réaliser. On n'est rien, au fond. Mais c'est les phrases qu'on entend et qu'on entend se développer dans la valorisation personnelle. Ce que je pense est juste et bon. Ma recette. Ce que moi, je pense. Comment on peut être heureux? Plusieurs livres encouragent les gens à s'aimer eux-mêmes. On appelle ça la génération du moi. C'est pas pour rien. Ça décrit vraiment la génération dans laquelle on est. La génération du moi. On est tourné vers soi-même. Et certains dictionnaires, c'est intéressant, définissent l'estime de soi comme étant de l'orgueil. C'est ça aussi. Quand vous regardez comme il faut, c'est de l'orgueil, tout simplement. Je suis quelqu'un, j'ai raison, j'ai besoin de personne, tassez-vous de mon chemin, j'ai mes objectifs. La personne peut être excessivement dynamique et réussir dans plein de choses, mais elle est en train de manquer son coup sur tout. C'est ça que ça veut dire aussi. D'autres vont dans d'autres directions aussi, bien sûr. Mais Paul nous dit que on le voit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2. Paul dit, « Sache que dans les derniers jours, et on est dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est dans l'ère du chacun pour soi. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, la culture du moi, la valorisation personnelle. Laissez-moi passer, laissez-moi tout ramasser. » Et on est rendu à une étape comme si on était à la fin d'une partie de Monopoly en ce qui concerne l'économie, vous savez. Ceux qui ont pu acquérir jusqu'à maintenant essaient de digérer les autres et de tout posséder pour qu'il y ait un gagnant à la fin de la partie et que tous les autres soient perdants. C'est ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. J'ai raison, laissez-moi passer. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents puis d'éducateurs dans notre société. Et j'ai parlé avec des gens qui ont travaillé en éducation ici, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de parents et d'éducateurs qui ont remplacé, malheureusement, la discipline de vie personnelle et la responsabilisation individuelle de leurs enfants par une emphase exagérée de l'estime de soi. Mon petit fait toujours bien les choses. Mon petit réussit. Et monsieur le professeur, si mon petit n'a pas les bonnes notes, c'est pas de sa faute. C'est vous qui êtes trop sévère. Ça va tellement loin que chez nous maintenant, on en parlait hier soir au souper justement, chez nous maintenant, on a commencé à baisser les standards d'évaluation des jeunes. Pourquoi? Pour que tout le monde passe. Pour que tout le monde ait du succès. Sauf qu'ils arrivent à l'autre bout de la machine, mais ils ne savent pas écrire. Et ils n'ont pas appris aucune discipline. Donc, on les a privés. Nous sommes responsables de ça en tant que génération de parents et d'éducateurs. On les a privés de développer la discipline qu'il faut pour réussir et développer vraiment ses talents. Parce que pour développer ses talents, il faut rencontrer des obstacles, des difficultés. Il faut qu'il y ait des efforts de fait. Mais aujourd'hui, on enlève tous les efforts pour que tout le monde réussisse. Donc, le succès d'une classe dépend du plus faible de la classe. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça qui se passe, qu'on voit arriver. Et c'est intéressant parce que ce mouvement-là est très répandu, vous savez, à tel point que l'APA, c'est-à-dire l'Association américaine de psychologie, estime que c'est là une attitude principale dans la société, et cette attitude-là, on la retrouve chez les enfants violents. C'est pas surprenant, parce qu'ils n'ont jamais appris à avoir de limites. On ne leur a pas fixé de limites, et il n'y avait pas de conséquences s'ils dépassaient la limite. Et on voit des enfants qui frappent leurs parents, qui frappent le professeur. Et on voit aux États-Unis des écoles qui doivent maintenant avoir des policiers armés. Et dans l'entrée des écoles, il y a des détecteurs de métal lorsque les étudiants entrent le matin pour éviter qu'il y ait des armes à feu et des couteaux dans l'école. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans cette génération de l'estime de soi, de tout laisser faire et de ne pas donner de règles. Il n'y a pas de conséquences aux actions non plus. Mais je reviens à l'Association américaine de psychologie qui dit que on retrouve chez les enfants violents cette estime de soi-là, même chose que chez ceux qui dirigent les gangs de rue. Estime de soi très élevée. Mais oui, c'est des leaders de gangs de rue, l'estime de soi. Je suis capable. Enlevez-vous de ma route. Il n'y a jamais rien qui m'a dérangé et il n'y a pas personne qui m'a dit quoi faire et personne ne va me dire quoi faire à l'avenir. C'est ce qu'on voit. On est témoin de ces choses-là. C'est une forme d'orgueil, de sentiment de supériorité qui n'apporte pas le bonheur, ni à ces jeunes-là non plus. Dans le fond, c'est un cri de malheur et un cri de désespoir lorsqu'on voit ce qui se produit dans le cas d'un certain nombre de ces jeunes-là. Et à ce sujet-là, la voix de Dieu, elle est totalement opposée. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Je dis tantôt, on doit apprendre à savoir qu'on n'est rien, qu'on n'est pas important. Et à partir de ce moment-là, Dieu bâtit sur nous. Dieu nous développe vers devenir quelqu'un qui va apprendre à vraiment servir. Il dit ceci, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » mais de revêtir des sentiments modestes. Sentiments modestes. J'ai besoin de tous les autres et je peux apprendre de tous les autres, même du plus petit, d'entre les êtres humains. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Voyez-vous, dans leur repli sur eux-mêmes, d'autres cherchent à être heureux dans la nourriture, dans les excès de nourriture ou dans l'alcool, ou dans une sexualité débridée, cherche à être heureux de cette façon-là. Mais, encore là, ça ne donne pas la réponse. Utiliser, selon Dieu, avec maîtrise, ces choses-là en soi-même sont bonnes et peuvent être utilisées dans un bon équilibre. Mais encore là, et j'insiste, ce n'est pas là le vrai bonheur. Le vrai bonheur n'est pas là. Le vrai bonheur, c'est quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je veux vous amener à cette idée-là. Le vrai bonheur, ça nous dépasse personnellement. C'est plus grand que nous-mêmes. C'est d'être tourné vers quelque chose de plus élevé que nous. Le vrai bonheur se trouve dans cette direction-là. Et je vais vous donner un exemple frappant. Vous avez sûrement entendu parler ou même peut-être lu le livre que cette personne-là a écrit. Helen Keller. Helen Keller, c'est cette enfant qui est né sourde, muette, aveugle. Et pendant longtemps, elle ne pouvait pas communiquer avec personne. Et finalement, on a pu communiquer avec elle, elle a pu développer des talents, et elle a même écrit un livre. Et elle parle du bonheur. Et là, je vous parle d'une personne sourde, muette, aveugle. Et dans son livre, voici ce qu'elle écrit. Et je vous dis cette phrase-là parce que moi, ça m'a touché. Et ça va exactement avec ce que Dieu nous donne, un grand but dans la vie, quelque chose de plus grand que nous. Elle dit ceci. « Plusieurs personnes ont une idée erronée de ce qui constitue le vrai bonheur. » On l'a vu tantôt, je vous l'ai décrit. « Le bonheur véritable ne s'obtient pas par la gratification personnelle. » Autrement dit, ce n'est pas en cherchant à se faire plaisir qu'on est vraiment heureux. Le bonheur véritable ne s'obtient pas par la gratification personnelle, mais par la fidélité à une cause valable. Être fidèle à une cause valable. Qu'est-ce que Dieu nous a révélé pour qu'on soit à la fête des tabernacles? Une cause valable. Quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Où on est ici pour les autres à l'extérieur, pour nos familles qui ne sont pas là, pour les autres êtres humains qui sont là, et ceux qu'on servira dans le monde à venir. Et ce faisant, nous allons être heureux, parce qu'on va avancer dans une cause valable qui nous est donnée. Dans son amour, dans sa miséricorde, Dieu nous a amenés à connaître lui et à nous impliquer dans cette cause-là, la plus merveilleuse cause de l'histoire. Marcher maintenant sur les traces de Christ et préparer un monde meilleur pour toute l'humanité. Ce qu'on célèbre aujourd'hui, vous et moi, c'est l'espoir de l'humanité. Même si ceux autour ne le comprennent pas. Et ça nous fait être bizarre à leurs yeux même. C'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Mais nous, on doit continuer. Parce que si nous ne continuons pas, eux vont être appelés à un moment donné, dans le royaume, durant le millénaire, ou après, s'ils sont décédés. Mais nous n'y serons pas si nous abandonnons en cours de route. Nous sommes là pour eux. Et nous devons continuer, persévérer dans cette cause valable que Dieu nous a révélée. C'est l'espoir de l'humanité. Il vous a été donné, et à moi aussi, de trouver le seul vrai chemin qui mène au bonheur. Pour vous-même, pour vos êtres chers et pour toute l'humanité. Et encore là, c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on a entendu dans un sermon. Responsabilité personnelle pour nous-mêmes, responsabilité collective pour nos êtres chers et ceux autour, et responsabilité planétaire par rapport à toute l'humanité après le retour de Christ. C'est pas pour rien qu'il est écrit dans Psaume 144, verset 15, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Voilà la source du grand but de l'existence humaine. C'est ça. La fête des tabernacles, elle est une fête de bonheur. Quelque chose de plus grand que vous et moi ensemble. C'est la famille de Dieu réunie et tournée vers l'avenir. Tournez vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'on nous dit, quand vous allez à la fête des tabernacles, laissez derrière vos préoccupations, vos problèmes, les choses à régler au retour et tout ça. Et appliquez-vous à vous réjouir devant Dieu et à apprendre à le craindre, c'est-à-dire à respecter sa volonté. Une des leçons de la fête, c'est que Dieu veut vraiment notre bonheur. Dans sa parole, il nous donne les clés pour avoir une vie joyeuse, heureuse, abondante. C'est intéressant parce que, traditionnellement, à la fête des tabernacles, les Juifs ont l'habitude de lire le livre d'Ecclésiaste. Et je vais vous montrer certaines choses là-dedans qui s'appliquent exactement au sujet de mon message aujourd'hui. Parce que le message de Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, il est très positif, il est très encourageant. Le thème, c'est « Quel est le but de la vie? » Quel est le but de la vie? Comment être heureux? Et il donne les principes qui s'appliquent non seulement à notre vie physique temporaire, mais à la vie éternelle aussi. Et je vais vous donner rapidement quatre clés pour être heureux dont Salomon nous parle. Rappelez-vous que le bonheur est un choix. Rappelez-vous que le bonheur est un choix et que nous sommes personnellement responsables d'être heureux ou non, selon que nous vivons ou non de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première clé, c'est de travailler. Ça fait peut-être drôle de dire ça, mais quand vous voyez dans le livre d'Ecclésiaste, c'est qu'il met une emphase comme en première étape sur travailler, c'est-à-dire être actif. Quel que soit notre âge, être actif dans ce qu'on peut faire. Bien sûr, lorsqu'on est plus jeune, on travaille plus dur physiquement et toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on entre dans un âge plus avancé, les choses changent, mais on doit être actif. Et surtout dans l'Église. Moi, je suis toujours impressionné par les dames âgées dans l'Église. J'en connais un certain nombre qui sont en résidence et qui ont des moyens limités de se déplacer ou des santé chancelantes et tout ça. Et ces personnes-là sont actives. Sont actives pour servir Dieu et se préparer à ce qui s'en vient. Parce qu'ils ont le grand but, la vue d'ensemble, la cause valable. Ça a resté la même. Alors, ils font leur journée. Mais au centre et au cœur de leur journée, comme priorité, c'est encore la prière, l'étude biblique, et d'être des lumières autour, sans essayer de convertir les gens, mais d'être des lumières autour. Et ça m'impressionne énormément. Et ces dames-là font un travail extraordinaire. Parce que sans leur prière, nous, en tant que ministres, on ne pourrait pas faire ce que nous faisons. Aussi simple que ça. S'il n'y avait pas cette armée de gens qui prient pour nous, et particulièrement de personnes à la retraite qui ont un peu plus de temps pour nous supporter, aller devant le trône de Dieu et demander à Dieu de nous bénir dans les efforts que nous faisons, nous ne pourrions pas le faire. Je vous donne un exemple très clair. Vous irez voir dans la Bible. À un moment donné, Moïse avait à diriger l'armée d'Israël contre des attaquants. Vous vous rappelez? Et Moïse priait Dieu pour qu'il lui donne la victoire. Il levait les bras au ciel et priait Dieu. Et les combats faisaient rage en bas. Et à un moment donné, Moïse devenait fatigué, la Bible dit. Il baissait les bras. Et quand il baissait les bras, Dieu répondait moins. Et l'armée d'Israël devait reculer et subissait des pertes. Et mais, écoutez, ça a duré toute la journée. Je ne me rappelle pas comment d'heure ça a duré la bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hur et Josué sont venus, un d'un côté, l'autre de l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, je pense que c'est ça les noms de ceux qui étaient là, en tout cas, peu importe. Mais ils ont soutenu, chacun de leur côté, les bras de Moïse pour que les bras restent en l'air, dans l'air. Et Moïse a continué à supplier Dieu de donner la victoire. Et Dieu a donné la victoire. Mais ce n'est pas Moïse qui a été capable de tenir ses bras le reste de la journée. Ça a été ceux qui le soutenaient. Alors, tous ces gens âgés, je les admire et je les remercie de prier pour le ministère, de prier pour ceux qui doivent aller au front, pour ainsi dire, et qui restent des êtres humains extrêmement limités et, pour tout dire, complètement impuissants. Parce que c'est la réalité. La force doit venir d'en haut, comme c'est venu pour le succès de la bataille cette journée-là. Mais on a besoin d'avoir ce support-là. Alors voyez-vous que nos personnes, quelles que soient les circonstances, peuvent être très actives. Un des buts de la vie, c'est l'activité. Regardez ce que Dieu a dit à Adam et Ève, de prendre soin du jardin. Et pourtant, le jardin était dans un état parfait. Ça devait être formidable. Écoutez, pas d'impôts, pas de taxes, pas de dettes. C'était idéal. Et la terre produisait. Tout allait bien, jusqu'au jour où, bien sûr, on sait. Mais c'était une vie aisée, facile. Mais après le péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden, et là, la nature a changé. Et là, Dieu a dit à Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front pour gagner ton pain et pour gagner ta vie. Ça a été la malédiction qui a été mise sur la terre jusqu'à nos jours. Et ça sera inversé lorsque le Christ sera revenu à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le travail, dans plusieurs cas, devient très, très difficile, devient un fardeau. Ce sera une bénédiction dans le royaume de Dieu que les choses soient différentes. Mais nous, durant cette fête, on goûte un peu d'avance ce repos-là que les gens connaîtront dans le monde à venir. Cette détente où on peut faire des choses, mais de façon détendue, sans que ce soit un fardeau. Et la vie éternelle, ce n'est pas une retraite, là. La vie éternelle, ce ne sera pas une retraite à rien faire, absolument pas. Il faudra être actif, comme on a entendu dans le sermon. Alors, on se prépare à ça aussi. Activité est importante. Qu'est-ce que le Christ a dit dans le sens de l'activité? Il a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Je suis actif. Le Christ a été actif. Nous devons l'être et nous allons l'être. Et c'est intéressant, quand vous allez voir le psaume 104 et le verset 31, ça dit ceci, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Donc, il y a une joie aux œuvres que l'Éternel fait. Et Dieu a travaillé. Maintenant, la deuxième clé pour être sur le chemin du bonheur, c'est de goûter, apprécier le fruit de notre travail. Il y a une satisfaction qui vient avec ça. Ecclésiaste 2, verset 24. Ecclésiaste 2, verset 24 dit ceci. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Et on sait qu'il y a un plaisir à travailler quand on peut faire des choses qu'on aime faire, produire des belles choses, il y a une satisfaction, il y a une joie. Alors, Dieu dit, goûtez aux choses que vous faites. Appréciez-les. Et la fête des tabernacles reflète très bien ce principe, comme on le voit dans Deutéronome ici. Parce que, regardez, il dit, tu célébreras la fête pendant 7 jours, ce qu'on fait, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Donc, il a fallu travailler pour avoir un pressoir, et pour avoir eu de la vigne, et pour avoir eu du raisin. Il y a un travail qui s'est fait. Et on goûte le fruit de ce travail-là quand on vient à la fête. On a mis notre deuxième dîme de côté pour nous préparer à la fête. C'est le fruit de notre travail au cours de l'année. Et on peut se présenter devant l'Éternel pour se réjouir. Et il dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et dans tout le travail de tes mains. Alors, voyez-vous, il y a un lien entre le travail et le bonheur aussi. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on ne fasse rien. Bien sûr, à certaines époques de la vie, on est plus limité. Mais comme je vous dis, notre vie peut être très active. Très, très active. À la fête des tabernacles, ça représente aussi le fait que les êtres humains vont profiter dans le monde à venir du travail de leurs mains. Allez à Ésaïe 65, s'il vous plaît, le verset 21. Ésaïe 65, verset 21 à 23. Regardez ce que les êtres humains vont faire à ce moment-là, sous notre direction, sous notre encouragement. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Là, on est dans des demeures temporaires, dans nos corps, mais à ce moment-là, nos corps deviendront des corps éternels. Troisième clé rapidement pour être heureux, c'est de partager avec les autres notre joie de vivre. Et merci de le faire. Je le vois ici à la fête, c'est tellement encourageant. Partager avec les autres notre joie de vivre. C'est ce que je sens ici. Et le fruit de notre travail. C'est pour ça que le Christ a déclaré, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est formidable parce que ça va s'appliquer bientôt dans le monde entier de façon extraordinaire. La quatrième clé maintenant, et c'est la plus importante. Sans cette clé-là, les trois premières ne fonctionnent pas. La quatrième clé que vous allez trouver dans le livre d'Ecclésiaste qui mène sur la voie du bonheur, c'est ceci, Ecclésiaste 12, verset 15. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà, exactement. Ça, c'est la base. Si ce n'est pas là, ou si ce n'est pas là entièrement, si je fais les choses à demi, ou de façon négligente, ou à ma façon, ce n'est pas là. Et les trois premières clés ne donneront pas le résultat qu'elles doivent donner. tout simplement. Cette chimie-là doit être complète, absolument. Alors, le bonheur, c'est un choix. Et ça commence par le seul choix possible. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alors, le chemin du bonheur, si je résume, n'est pas si compliqué que ça. C'est simple, dans le fond. S'appliquer à obéir aux commandements de Dieu. On n'est pas parfait d'un coup. Il ne faut pas se décourager si on n'atteint pas la perfection. Mais il faut être en route. Et quand on se trompe, demander pardon à Dieu et recommencer le combat. Et Dieu sait d'où on part. Il est patient. Il est bon envers nous. Alors, le chemin du bonheur, c'est un, s'appliquer à obéir aux commandements de Dieu. Être actif ensuite. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition. Je connais des gens âgés qui envoient des petites cartes, des petits coups de téléphone, ou qui se présentent à l'Assemblée et qui encouragent les autres, des dames âgées qui encouragent les jeunes dames avec des enfants, et ainsi de suite. Troisièmement, apprécier le fruit de ce que nous faisons. Goûter à ces choses-là. Et finalement, partager avec les autres. C'est des principes, dans le fond, qui sont simples, mais qui sont profonds. Et ces principes-là vont nous inspirer tout au long de l'année à suivre avec joie et avec zèle la voie que notre grand frère a tracée devant nous. On doit marcher dans ses traces. Nous sommes heureux dans la mesure où nous choisissons de suivre et d'imiter le Christ, notre grand frère affectueux. On est heureux dans cette même mesure-là. Comme M. Armstrong disait aussi, on est converti dans la même mesure où on s'implique dans l'œuvre de Dieu, de toutes les façons possibles, y compris par les prières qui sont tellement importantes. Alors oui, on a chacun d'entre nous des difficultés, c'est vrai, et on va en avoir encore. Chacun d'entre nous, il y a des luttes à mener, et c'est pas fini. Et il y a parfois des souffrances, il y a parfois des douleurs physiques ou des problèmes émotionnels de notre vie ancienne, tout ça. Mais Dieu s'occupe de tout ça. Et nous passons par des circonstances pénibles parfois. Mais nous sommes des appelés par le Dieu de l'univers, le grand Créateur, qui a choisi de nous appeler et qui a choisi de nous montrer le vrai chemin, l'unique chemin qui mène au véritable bonheur. Alors, on se prépare à la fête. Dieu nous bénit de façon spéciale pour qu'on continue notre route quand on va retourner chez nous, pour tenir bon, ayant à l'esprit ce que Paul a dit, et moi j'aime beaucoup ce verset-là dans Philippiens 1, verset 6, quand il dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La perfection, elle ne viendra pas de moi. Il faudra que je sois en train de continuer à imiter le Christ. Mais Dieu va me rendre parfait si je persévère dans ce grand projet de famille auquel Dieu me donne de participer. Et nous entendrons, si nous persévérons, cette belle phrase qu'on a mentionnée dans un sermon précédent, c'est bon, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà le bonheur éternel qui nous attend aussi.